Vous écoutez On lit pour vous.
L'écart qui dérange. Un texte de Julie Chaumont, paru le 14 juin 2026 dans La Presse. Les couples avec une grande différence d'âge font souvent réagir. Parlez-en au comédien Sébastien Delorme, 55 ans, en couple depuis 2 ans, avec la créatrice de contenu et fondatrice de l'agence LV, Virginie Beaulieu, 26 ans. Récemment, le couple a témoigné dans les médias de la déferlante de haine sur les réseaux sociaux. Sugar daddy, cougar, les stéréotypes sont tenaces. Derrière les jugements se cachent plusieurs couples qui ont dû, plutôt que d'autres, se poser des questions fondamentales sur la famille, la carrière, le vieillissement ou l'avenir. Pourtant, les couples dépareillés sur le plan de l'âge ont toujours existé. Ils étaient, par exemple, plus nombreux dans les années 1960 où, selon les données de recensement américain, 13% des mariages avaient 10 ans ou plus de différence. Ce chiffre est tombé à 9% dans les années 2000. Selon les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec, l'écart moyen d'âge dans les couples hétérosexuels est de 4,4 ans. On est vraiment dans une espèce de symétrie maintenant, bien plus qu'avant. Quand tu déroges à ça, les gens réagissent inévitablement, constate Sarah Mathieu Chartier, sexologue et chargée d'enseignement en médecine au département de psychiatrie et de neurosciences de l'Université Laval, affiliée au Club Sexu. Dans les études, on commence à parler d'un écart quand il y a une différence entre 7 et 10 ans. Quand c'est plus petit que 7 à 10 ans, on n'a pas tendance à documenter une réelle différence ou à considérer ça comme une réelle différence, explique la sexologue. Les jugements. Il faut parfois être fort pour endurer les remarques et le regard des autres lorsqu'on est dans une relation amoureuse avec un important écart d'âge. Encore plus quand on est une personnalité publique. Sébastien Delorme s'est notamment fait accoler l'étiquette de pédophile et sa conjointe, Virginie Bruno, se fait traiter de poupée gonflable. Au début, mon chum se faisait répéter une expression qui dit « Si tu couches avec un enfant, tu vas te réveiller mouillé le lendemain matin. Parce qu'un enfant, ça pisse au lit », raconte Rebecca Paquin-Lucier, en couple depuis 10 ans avec Pocho Diaz Mendoza, qui a 20 ans de plus qu'elle. À 32 ans, Eric Mitchell, en couple avec Caroline Salvaille, qui a 9 ans de plus que lui et avec qui elle a 2 enfants, raconte s'être fait refuser la vasectomie. Caro était là. La dame m'a dit « Selon votre différence d'âge, vous, c'est sûr que vous allez avoir d'autres enfants plus tard avec une plus jeune. Mais elle, c'est fini », raconte-t-il. Des personnes désagréables dans mon entourage ont fait des remarques, mais je les ai simplement ignorées, dit pour sa part Pascal Bélanger, en couple depuis 35 ans avec Ginette Trudel, qui a 10 ans de plus que lui. Dans un cas comme dans l'autre, il y a 2 poids, 2 mesures selon le genre. Les femmes qui sont avec des hommes plus jeunes vivent avec un stéréotype différent de celui des hommes. Les deux vont avoir à assumer des stéréotypes, mais pas les mêmes, pense Sarah Mathieu Chartier. Les grands questionnements. En plus des stéréotypes, les couples avec un grand écart d'âge doivent affronter des questionnements parfois plus complexes, plus rapidement, notamment ceux en lien avec certaines étapes de la vie, fonder une famille, prendre sa retraite, etc. Quand on est dans une relation, disons, atypique, on n'a pas de modèle de référence, à part des modèles caricaturaux, souligne Sarah Mathieu-Chartier. On est obligé de se poser des questions qu'on ne se posera pas nécessairement autrement. Ça peut nous amener à développer une certaine forme de maturité émotionnelle, communicationnelle, de résilience. Le fait de se positionner comme équipe face à cette pression-là peut être favorable sur le plan de l'épanouissement. À 30 ans, Caroline se demandait si Eric, 21 ans, était vraiment sérieux dans son désir d'avoir des enfants rapidement. Pour Ginette, c'était tout le contraire. Elle venait de sortir d'un mariage de 15 ans et avait deux enfants lorsqu'elle a eu le coup de foudre pour Pascal. Il fallait que je mette au clair que je ne voulais pas d'autres enfants. Alors, je questionnais beaucoup Pascal. « Es-tu prêt? Est-ce qu'on continue à vivre ensemble sans fonder une famille avec un enfant commun? » raconte-t-elle. En plein tumulte de ces questionnements, un accident a mené à la naissance d'un garçon. « Quand tu me l'as annoncé, tu pleurais. Et moi, je me retenais pour ne pas être trop joyeux », se rappelle son conjoint. « Cet enfant aura finalement été source d'un grand bonheur. » Pour Rebecca et Pocho, en plus des discussions au sujet des enfants, des plans ont été élaborés pour la vie professionnelle de chacun. Rebecca, 30 ans, étant encore aux études, et Pacho, 50 ans, se rapprochant davantage de la retraite, il a été convenu que les rôles s'inverseraient au moment venu. Quand on a commencé à sortir ensemble, Pocho m'a dit « C'est vraiment important que tu étudies, que tu te ramasses des outils, que tu aies des diplômes, que tu fasses tes choses. Je suis encore aux études, je fais ma maîtrise. » Dans le fond, c'est Pocho qui travaille en ce moment et qui m'appuie dans ça. Puis, à l'inverse, quand je commencerai à travailler et avoir un salaire stable, il ne travaillera pas. Ces conversations sur les enfants, la retraite ou le vieillissement ne sont pas propres aux couples qui ont un grand écart d'âge, mais chez eux, elles arrivent souvent plus tôt et plus frontalement. Pour Rebecca et Pocho, comme pour Ginette et Pascal, ou Caroline et Eric, la différence d'âge n'a pas disparu avec le temps. Elle est simplement devenue une réalité parmi d'autres, intégrée à l'équation du couple. « L'âge, ça ne change pas ce que Caro est, » dit Eric. « C'est Caro que j'ai aimé et que j'aime. Ça ne changera pas, peu importe ce que les gens vont dire. » C'était « L'écart qui dérange », un texte de Julie Chaumont, paru le 14 juin 2026 dans La Presse.
Un médecin qui revient de loin. Un dossier de Marie-Ève Cousineau, paru le 14 juin 2026 dans La Presse. Habituellement, c'est elle qui soigne les patients. Mais à l'automne 2025, c'est elle qui s'est retrouvée clouée au lit, paralysée de la tête aux pieds. La docteure Laura Horowitz a survécu à ce cauchemar qui a changé sa vie et sa pratique de médecin spécialiste. Premier texte. De soignante à patiente. La première fois que je me suis brossé les dents, j'ai pleuré de joie. Quand elle s'est déplacée seule en fauteuil roulant, aussi. Et lorsqu'elle est parvenue à soulever sa fille de 2 ans et la tenir dans ses bras. Laura Horowitz revient de loin. La médecin spécialiste est devenue une patiente paralysée de la tête aux pieds. Sa vie bascule un jour de septembre. Affectée par un virus, la néphrologue de 37 ans ressent un engourdissement dans les petits orteils, puis ne les sent plus. Le lendemain, c'était les deux pieds en entier, dit-elle. Elle ne perçoit plus la chaleur et le froid au centre de ses mains et les ressent à l'extrême dans les doigts. Laura Horowitz craint le pire, le syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune rare qui entraîne une paralysie progressive des jambes jusqu'aux bras. Voir texte suivant. Elle se présente à l'urgence de l'Hôpital général de Montréal où elle pratique. Sa tension artérielle est très élevée, mais l'examen pour le syndrome s'avère normal. Elle revient chez elle. Les symptômes s'aggravent le lendemain. Fatiguée, elle frôle la syncope dès qu'elle se lève. Retour à l'hôpital où le diagnostic soupçonné est confirmé. Elle commence un traitement avant d'être transférée à l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, le Neuro. « 2 jours plus tard, j'ai perdu l'usage de mes jambes », raconte-t-elle, assise dans la cour arrière de sa maison. Soigner un confrère. La descente aux enfers débute. Elle est paralysée des pieds à la tête. Elle est nourrie par un tube. La maladie affecte les muscles permettant d'avaler et doit porter une culotte d'incontinence. Elle est incapable de sourire à ses proches puisque la moitié de son visage est paralysée. Elle perd près de 14 kg. « J'étais complètement dépendante », dit la docteure Horowitz, dont les proches se sont relayés pour s'occuper d'elle à l'hôpital. « Je ne pouvais même pas utiliser la cloche d'appel. » « Les préposés aux bénéficiaires deviennent sa vie », affirme-t-elle. « On ne peut rien faire sans eux. Un patient ne peut pas manger, potentiellement, sans un préposé. Comme médecin, je n'avais pas réalisé ça. J'ai beaucoup appris. » Le manque de préposés aux bénéficiaires est criant, selon elle. Parfois, il y en avait seulement 2 sur le plancher, et quand un était en pause, je ne pouvais pas être déplacé, affirme-t-elle. Elle recrute à ses frais des personnes pour l'aider la nuit, comme des préposés aux bénéficiaires. Elle veut éviter les escarres, plaies de lit. La douleur était atroce, dit-elle. L'anxiété est à son comble. Elle ne dort pas. La médecin spécialiste en sait trop sur la maladie. « J'avais peur de ne plus être capable de respirer, dit-elle. Le syndrome de Guillain-Barré peut affecter les muscles respiratoires. Certains patients se retrouvent aux soins intensifs intubés sous respirateur artificiel. » Son neurologue, au neuro, le docteur Rami Massi, tente de la rassurer. Mais il la prévient que son état va se dégrader progressivement pendant un maximum de 4 semaines avant de s'améliorer. Quand ça allait mal à l'hôpital et qu'elle était très anxieuse, je lui ai souvent dit « Vous savez, on va se revoir dans 3 mois et vous allez venir en marchant au bureau », dit-il. C'est ce qui est arrivé et j'étais content. Pour un médecin, soigner un confrère est particulier. Ça a des avantages et des désavantages, remarque le docteur Massi en esquissant un sourire. Le paternalisme médical étant révolu, affirme-t-il, les médecins discutent toujours avec les patients de leurs soins. Il y a encore beaucoup de patients qui disent « Je n'ai aucune idée, faites ce que vous voulez », alors que là, pas elle, dit-il en éclatant de rire. Ça a été extrêmement difficile. Après une hospitalisation de 6 semaines au neuro, la docteure Horowitz a séjourné pendant 2 mois à l'hôpital juif de réadaptation à Laval. Elle y a notamment réappris à se tenir en position assise et à marcher. « J'ai des attentes élevées envers moi-même. Alors, ça a été extrêmement difficile », dit le médecin qui se qualifie de « workaholic ». Je me comparais à ce que j'étais avant la maladie. La docteure Horowitz n'a pas encore retrouvé toutes ses capacités. Elle est suivie en physiothérapie, en ergothérapie et en kinésiologie à l'hôpital juif de réadaptation. Mais elle marche sans canne, fait du vélo et recommence graduellement à travailler. La néphrologue a rencontré mercredi à l'hôpital général de Montréal ses collègues du programme qu'elle dirige en santé rénale pour les communautés CRI du nord du Québec. Sa maladie changera sa pratique, selon elle. À l'hôpital, la docteure Horowitz promet de vérifier si ses patients ont accès à la cloche d'appel dans leur chambre, et elle fera preuve de compassion si un patient doit passer une imagerie par résonance magnétique IRM. « C'est tellement bruyant », lâche-t-elle. La néphrologue a déjà soumis l'idée à l'Université McGill de mettre en place une simulation lors de laquelle les étudiants en médecine se mettraient dans les souliers d'un patient. « C'est très important », pense-t-elle. Comment peux-tu savoir quels sont les besoins du patient quand tu n'as jamais été un patient avant? En savoir plus. 1 à 2 personnes sur 100 000 est frappée par le syndrome de Guillain-Barré par année. Vous écoutez Une médecin qui revient de loin. Un dossier de Marie-Ève Cousineau paru le 14 juin 2026 dans la presse. Deuxième texte. Une maladie terrible. Le syndrome de Guillain-Barré est souvent provoqué par une infection comme un rhume, une grippe ou une gastro-entérite, ou beaucoup plus rarement par un vaccin. Lorsqu'on en est atteint, nos anticorps attaquent nos propres nerfs. Les premiers signes, ce sont souvent des picotements, des engourdissements qui commencent la plupart du temps dans les pieds, dit le docteur Rami Massi, neurologue au neuro et spécialiste des maladies neuromusculaires. En dedans de 48 heures, 72 heures, ça remonte très rapidement dans les genoux, les jambes, les mains. On développe rapidement de la faiblesse, c'est-à-dire la difficulté à marcher. Le syndrome de Guillain-Barré peut entraîner une paralysie des jambes, des bras et du visage, en plus d'affecter les muscles servant à la déglutition et à la respiration. Moins de 5 % des gens en meurent, selon le docteur Massi. C'est une maladie terrible parce que ça peut atteindre n'importe qui, dit-il. Ça peut atteindre des gens qui étaient complètement fonctionnels et en une semaine, ils sont paralysés aux soins intensifs, incapables de respirer. C'est ce qui est arrivé à Annick Nadeau-Fréchette il y a près de 3 ans. Paralysée de la tête aux pieds, la jeune femme alors âgée de 18 ans a séjourné aux soins intensifs pendant environ un mois. Elle a dû être branchée à un respirateur artificiel durant une semaine et plongée dans le coma une journée. « J'ai dû réapprendre à marcher, à parler, à mobiliser mon visage », dit-elle. « Juste bouger l'orteil, c'était une grosse rééducation. » C'est être un héros de données. Lors de son séjour hospitalier, on lui administre pendant 5 jours des immunoglobulines, un produit sanguin contenant des anticorps qui ont pour mission de combattre les « mauvais » qui attaquent ses nerfs, le même traitement que Laura Horowitz. Puis, on a recours à la plasmaphérèse, un traitement qui consiste à filtrer son sang dans une machine pour se débarrasser des mauvais anticorps et à réintroduire dans son flux sanguin ses globules rouges et ses plaquettes avec de l'albumine, protéine du sang et un plasma artificiel de remplacement. J'ai eu entre 30 et 40 traitements de plasmaphérèse, dit Annick Nadeau-Fréchette. C'est ça qui m'a sauvé la vie. Selon le Dr Massi, 60 % des patients atteints du syndrome de Guillain-Barré récupèrent complètement en un an. Environ 85 % marchent de façon indépendante. Pas de canne, pas de marchette au bout d'une année, ajoute-t-il. Depuis qu'elle est remise sur pied, Annick Nadeau-Fréchette a réussi 6 marathons, 2 ultramarathons et 2 Ironman, et ce, malgré 3 interventions pour réparer sa trachée endommagée lors de son hospitalisation. La Sherbrookeoise de 21 ans veut maintenant sensibiliser la population à l'importance du don de plasma. Du 19 au 22 juin, elle parcourra 900 km en relais avec 6 autres coureurs entre Drummondville et Gaspé afin d'atteindre une cible symbolique de 900 dons. Elle s'arrêtera au centre de dons de Drummondville et de Lévis-Démas-Québec, partenaire de son initiative. « C'est être un héros de donner juste une fois du plasma, dit-il. » Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce aux gens. C'était Une médecin qui revient de loin, un dossier de Marie-Ève Cousineau, paru le 14 juin 2026 dans la presse.
Pourquoi laisser son chat sortir n'est pas sans risque pour toute la famille. Un texte de Christelle Cherrier, paru le 13 juin 2026 dans Futura Science. Votre chat passe ses journées à explorer le quartier avant de rentrer réclamer sa gamelle et quelques caresses? Selon une nouvelle étude, ces escapades pourraient aussi l'exposer à de nombreux microbes, parasites et virus susceptibles d'être rapportés jusqu'au foyer. Avec 16,6 millions d'individus recensés en France, le chat figure parmi les animaux de compagnie les plus fréquents dans les foyers français. Selon le dernier baromètre de la FACO, Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers, 39% des Français déclarent vivre avec au moins un félin. Mais derrière les longues siestes sur le canapé et les escapades dans le voisinage se cache une réalité moins connue. Une vaste étude internationale publiée dans PLOS Pathogènes suggère en effet que les chats domestiques qui vagabondent sont presque aussi exposés aux maladies que les chats errants. Les chats qui sortent accumulent davantage de pathogènes. Les propriétaires de matous pensent souvent que les vaccins, les vermifuges et les visites régulières chez le vétérinaire suffisent à protéger leurs compagnons. Pourtant, la méta-analyse menée par des chercheurs de l'University of British Columbia montrent que la réalité est plus complexe. Ils ont compilé les données de 604 études portant sur plus de 174 000 chats répartis dans 88 pays. Leur objectif : déterminer comment le mode de vie du chat influence son risque d'être porteur d'agents pathogènes transmissibles à l'être humain. Les résultats sont sans appel. Les chats ayant accès à l'extérieur présentent un risque d'infection 3 à 5 fois plus élevé que les chats vivant exclusivement à l'intérieur. Plus surprenant encore, selon Amy G. Wilson, auteur principal de l'étude, leur niveau de risque est comparable à celui observé chez les chats errants. Près de 100 maladies potentiellement transmissibles à l'humain. Au total, 124 agents pathogènes ont été recensés, dont près de 100 zoonotiques, c'est-à-dire capables d'infecter à la fois les animaux et les humains. Parmi eux figurent notamment Toxoplasma gondii, responsable de la toxoplasmose, certaines bactéries du genre Salmonella, des vers intestinaux ou encore le virus de la rage dans les régions où il circule encore. Lors de ces explorations, un matou peut chasser un rongeur, boire dans une flaque, traverser plusieurs jardins ou croiser d'autres chats. Autant d'occasions d'entrer en contact avec des parasites, bactéries ou virus qui passent souvent inaperçus aux yeux de leurs propriétaires. Beaucoup de propriétaires ont déjà retrouvé une souris ou un oiseau sur le pas de leur porte. Mais selon les chercheurs, nous sous-estimerions largement les talents de chasseurs de nos compagnons à quatre pattes. Les captures de proies seraient sous-évaluées d'environ 80%, ce qui signifie que la plupart de leurs aventures restent inconnues de leurs humains. Faut-il vraiment empêcher son chat de sortir? Pas nécessairement. L'enjeu n'est pas d'opposer le bien-être du chat à la santé de la famille, mais de limiter les sorties non surveillées. Un chat peut profiter d'extérieur dans un jardin sécurisé, sur un balcon protégé, dans un enclos ou lors de sorties encadrées. Ces solutions limitent les contacts avec les rongeurs, les oiseaux, les autres félins et les sols contaminés. Heureusement, l'étude ne suggère pas de se méfier de son compagnon à moustache. Le risque ne vient généralement pas des caresses ou des séances de ronron sur les genoux, mais plutôt du contact avec la litière, les excréments, certaines griffures infectées ou encore les proies rapportées après une sortie. Concernant la toxoplasmose, l'ANSES rappelle d'ailleurs que les griffures ou le simple contact avec le pelage d'un chat ne constituent pas des modes habituels de transmission. L'objectif n'est donc pas de considérer son chat comme une menace, mais de comprendre que ces déplacements multiplient les occasions de contact entre la faune sauvage, l'environnement et le foyer. Quelques mesures simples permettent ainsi de réduire les risques tout en préservant la qualité de vie de l'animal. C'était « Pourquoi laisser son chat sortir n'est pas sans risque pour toute la famille ?» Un texte de Christelle Chérier, paru le 13 juin 2026 dans Futura Science.
Combattre la désinformation comme on combat les virus. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir. Dans les deux cas, il faut agir rapidement, souligne un expert français en désinformation scientifique. Non, les autorités congolaises n'ont pas créé l'épidémie d'Ebola. Et non, il n'existe pas de vaccin contre l'antivirus. La machine à rumeurs se met désormais systématiquement en marche à chaque éclosion. Cette désinformation doit être combattue aussi sérieusement que la maladie elle-même, estime un médecin français. Durant la pandémie de COVID-19, les fausses informations ont inondé les réseaux sociaux, rappelle le docteur David Smadja, hématologue et expert en désinformation scientifique, en entrevue avec Le Devoir. Mais ce phénomène s'étend maintenant pratiquement à toute émergence de maladie, dit-il. L'éclosion d'antivirus survenue il y a environ un mois à bord d'un bateau de croisière en témoigne, estime celui qui était de passage à Montréal pour le festival scientifique Eureka, qui a eu lieu les 5, 6 et 7 juin derniers. Rapidement, des internautes ont prétendu qu'un vaccin était prêt et qu'il servirait de prétexte pour imposer une nouvelle campagne de vaccination, relate-t-il. Il y a des gens qui disaient « on va nous l'injecter, il faut qu'on dise non ». Mais il n'y a pas de vaccin prêt, en fait. La République démocratique du Congo, qui fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola depuis la mi-mai, n'échappe pas non plus à la désinformation. Sur les réseaux sociaux, par exemple, une publication accusait à tort le président Félix Tshisekedi d'avoir commandé l'épidémie actuelle à un virologue. Ça a été vu des milliers de fois, souligne le médecin. Le docteur Smadja est catégorique. Les autorités doivent réagir plus rapidement pour faire circuler des renseignements vérifiés afin de faire contrepoids à ces rumeurs. Mais elles doivent aussi se battre à armes égales contre les acteurs de la désinformation, ajoute-t-il. Les pouvoirs publics doivent se rendre compte que le monde a changé et qu'aujourd'hui, la communication pour toucher les jeunes se fait sur TikTok ou sur Instagram, poursuit le médecin. Selon lui, les autorités sanitaires devraient notamment profiter de ces plateformes pour expliquer leurs décisions et la science de façon plus générale. Il faut, par exemple, décrire les différentes étapes qu'un médicament doit franchir avant d'être autorisé et mis en marché, dit-il. Pour accroître la portée des messages scientifiques francophones, la France et le Québec auraient aussi avantage à collaborer, croit le docteur Smadja. On doit avancer main dans la main pour toucher ceux qui lisent et parlent en français. L'un des risques de la désinformation, rappelle le médecin, est l'érosion de la confiance de la population envers les autorités de santé publique. Il cite notamment les liens entre l'importance du mouvement anti-vaccin aux États-Unis et la résurgence de la rougeole dans ce pays. On a de nouveau énormément de cas, ce qu'on ne voyait plus depuis de nombreuses années. La méfiance alimentée par les fausses informations peut aussi freiner l'innovation, déplore le docteur David Smadja. Aujourd'hui, tout progrès médical est tout de suite suspect de manipulation. Et ça, c'est très grave. Le monde a évolué avec le progrès médical. On a une espérance de vie qui est rallongée grâce au progrès médical. Cette défiance a même des répercussions concrètes sur la recherche, ajoute-t-il. Dans certains pays, les projets visant à développer de nouveaux vaccins peinent désormais davantage à obtenir du financement. Ça a des conséquences directes sur la santé publique. Dans ce contexte, les chercheurs et les experts ont une responsabilité accrue de participer au débat public, insiste-t-il. Ça fait partie de notre métier, il faut qu'on le fasse. C'était « Combattre la désinformation comme on combat les virus ». Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 17 juin 2026 dans Le Devoir.